158e jour. Alpha commence à dire quelques mots. Il semble plus lent, plus borné, à peine conscient de ma présence ou de celle des autres. Mais il marche et il se nourrit. J'ai même l'impression qu'il me reconnaît dans une certaine mesure. Le scanner indique que son cœur et ses organes sont ceux d'un jeune homme qui pourrait avoir dans les 16 ans. Il ne me reste plus que 50 jours en temps local à attendre pour que l'activité de la forêt des flammes se calme suffisamment et me permette de m'en aller, quelle que soit la souffrance que cela me coûtera. Nous verrons bien qui résistera le mieux à la douleur. 173e jour. Quelqu'un d'autre est mort. Celui que j'appelle Will, c'est celui qui a un doigt cassé, n'était pas rentré depuis une semaine. Hier, les Bikura ont parcouru plusieurs kilomètres en direction du nord-est, comme s'ils étaient guidés par une balise, et ont retrouvé ses restes près du précipice. Il semble qu'une branche ait cédé sous son poids alors qu'il descendait cueillir du chalme. La mort a dû être instantanée, vu l'état de sa nuque brisée. Mais c'est l'endroit où il est tombé qui est le plus important. Le cadavre, si toutefois on peut l'appeler ainsi, gisait entre deux hauts cônes de boue marquant l'emplacement des galeries de ces gros insectes rouges que Tuk appelait des mantes de feu. En l'espace de quelques jours, ils ont tout dévoré pour ne laisser que les os, quelques tendons et des lambeaux de tissu. Le cruciforme était fixé à la cage thoracique comme une croix précieuse déposée dans le sarcophage de quelques papes depuis longtemps décédés. C'est une chose terrible, mais je ne puis m'empêcher d'éprouver, au-delà de ma tristesse, un léger sentiment de triomphe. Il est impossible que le cruciforme puisse régénérer quoi que ce soit à partir de ses os nus. Même s'il n'obéit pas aux lois de la logique, ce maudit parasite doit respecter la loi de conservation des masses. Le Bikura que j'appelais Will est mort de la vraie mort. Les 70, désormais, devront s'appeler les 69. 174e jour. Je suis un crétin. Je me suis renseigné à propos de Will et de la vraie mort. C'est le manque de réaction des Bikura qui m'a mis la puce à l'oreille. Ils ont pris le cruciforme en laissant le squelette à l'endroit où il se trouvait, sans essayer de transporter ses restes dans la basilique. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir parce que j'étais tourmenté à l'idée que c'était moi qui devrais faire le 70e. « Quelle tristesse, leur ai-je dit, que l'un d'entre vous soit mort de la vraie mort. Que va devenir votre groupe ?» Beta m'a regardé avec surprise.
« Il ne peut pas mourir de la vraie mort ?»
a répliqué le petit androgyne au crâne chauve.
« Il fait partie du cruciforme. »
Je n'ai découvert la vérité que quelque temps après, en continuant de passer au scanner le reste de la tribu. Celui que j'ai baptisé Theta n'a pas changé d'aspect ni de comportement, mais il porte maintenant deux cruciformes incrustés dans sa chair. Je suis sûr qu'il va bientôt se mettre à enfler obscènement, comme un vulgaire E. coli dans une boîte de pétri. Et quand il ou elle mourra, deux Bikura sortiront de la tombe, et les 70 se retrouveront au complet. J'ai l'impression que je vais devenir fou. 195e jour. J'ai passé des semaines à étudier ce maudit parasite et je n'ai toujours pas la moindre idée sur la manière dont il fonctionne. Pis encore, cette question m'est devenue indifférente. J'ai d'autres préoccupations plus importantes. Comment Dieu a-t-il pu permettre une telle obscénité? Pourquoi les Bikura sont-ils punis de cette manière? Pourquoi ai-je été choisi pour partager leur sort? Je pose toutes ces questions dans mes prières du soir, mais aucune autre réponse que le hurlement sanglant du vent dans la faille ne me parvient. 214e jour. Je voulais consacrer les 10 dernières pages aux notes prises sur le terrain et à un certain nombre de conjectures techniques, mais j'écris ici mes derniers mots avant de partir affronter la forêt des flammes demain matin. Sans le moindre doute, j'ai découvert ici ce qu'il peut y avoir de plus bas dans les eaux croupies des sociétés humaines. Les Bikura ont réalisé le rêve humain de l'immortalité, mais ils ont payé celle-ci de leur humanité et de leur âme immortelle. Je peux te dire, Édouard, que j'ai passé des heures et des heures à lutter avec ma foi, ou plutôt mon absence de foi, mais que j'ai maintenant retrouvé, dans ce recoin effrayant d'un monde presque oublié, aux prises avec mon répugnant parasite, une ferveur que je n'avais pas connue depuis les jours où toi et moi nous étions enfants. J'ai compris la nécessité d'une foi pure, aveugle, qui vole dans les plumes de la raison pour se protéger, autant que faire se peut, dans l'océan menaçant et infini d'un univers soumis à des lois aveugles et totalement insensible aux pauvres créatures de raison qui l'habitent. Jour après jour, j'ai essayé de m'éloigner de la faille. Jour après jour, j'ai enduré des souffrances si pénibles qu'elles sont devenues une partie tangible de mon univers, tout comme le soleil trop petit ou le ciel d'émeraude et de lapis-lazuli. La douleur a fini par devenir mon allié, mon ange gardien, mon dernier lien avec l'humanité. Le cruciforme n'aime pas la souffrance. Moi non plus, mais je suis prêt, comme lui, à l'utiliser pour servir mes fins. Et je le ferai consciemment, non pas instinctivement comme la masse sans cervelle de tissu étranger incrusté dans ma chair. Cette chose cherche machinalement à éviter la mort à tout prix. Ce n'est pas que je la recherche pour ma part, mais je préfère la souffrance ou la mort à une vie végétative éternelle. La vie est quelque chose de sacré. Je m'accroche encore à ce dogme comme à un élément central de la pensée et de l'enseignement de l'Église durant ces derniers 28 siècles, au cours desquels elle a eu, à vrai dire, si peu de prix. Mais l'âme est encore plus sacrée. Je me rends compte à présent que ce que j'essayais de faire avec les fouilles d'Armagaste n'aurait pas conduit à un renouveau de l'Église, mais tout au plus à une existence factice comme celle qui anime ces pauvres cadavres ambulants. Si l'Église est condamnée à mourir, qu'elle meure, mais en toute gloire, en pleine connaissance de sa renaissance dans le Christ. Elle doit s'enfoncer dans les ténèbres, non pas de son plein gré, mais dignement, bravement, forte de toute sa foi, comme les millions de croyants qui nous ont précédés, toutes ces générations qui ont fait face à la mort dans le silence désespéré des camps d'extermination, devant les boules de feu de l'apocalypse nucléaire, dans les services des cancéreux des hôpitaux ou au milieu des pogroms. Tous, ils ont rejoint la nuit éternelle, non pas avec espoir, mais en priant qu'il y ait une raison à tout cela, quelque chose qui justifie le prix de leurs souffrances et de leurs sacrifices. Mais les ténèbres les ont engloutis, sans leur donner la moindre assurance préalable, la moindre théorie logique ou convaincante autre qu'un mince fil d'espoir rattaché à la trop fragile conviction de la foi. Et s'ils ont su garder ce mince espoir face à la nuit noire, je dois être capable d'en faire autant. Et l'Église aussi. Je ne crois plus qu'un traitement ou une opération chirurgicale puisse me guérir de cette abomination. Mais si quelqu'un pouvait l'exciser pour l'étudier et la détruire, même au prix de ma propre mort, je m'estimerais satisfait. La forêt des flammes ne sera jamais plus calme qu'en ce moment. Au lit à présent. Demain, je pars avant l'aube. 215e jour. Il n'existe aucune sortie. 14 kilomètres à travers la forêt. Quelques explosions de flammes éparses, mais rien d'impénétrable. 3 semaines de marche et j'aurais pu passer. Mais le cruciforme ne me laisse pas partir. La douleur ressemble à celle d'une crise cardiaque sans fin. Mais j'ai continué d'avancer en chancelant dans la poussière de cendres. J'ai fini par perdre connaissance. Lorsque je suis revenu à moi, j'étais déjà en train de ramper en direction de la faille. J'ai fait 10 fois demi-tour pour marcher sur 1 kilomètre, ramper sur 50 mètres, perdre connaissance et reprendre mes sens à l'endroit d'où j'étais parti. Cette bataille insensée pour la possession de mon corps a duré toute la journée. Peu avant le coucher du soleil, les bicuras sont entrés dans la forêt, m'ont trouvé à 5 kilomètres de la faille et m'ont ramené avec eux. Mon bon Jésus, comment as-tu pu permettre ces choses? Il ne me reste plus aucun espoir, à moins que quelqu'un ne vienne me chercher jusqu'ici. 223e jour. Nouvelle tentative, nouvelle souffrance, nouvel échec. 257e jour. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 68 ans standard. Le travail avance bien sur le chantier de la chapelle que j'édifie à proximité de la faille. J'ai tenté hier de descendre jusqu'au fleuve, mais Bêta et quatre autres bicuras m'en ont empêché. 280e jour. Une année locale sur Hyperion. Une année de purgatoire. Ou bien est-ce l'enfer? 311e jour. En taillant les pierres de la chapelle, sur une saillie en contrebas du plateau où elle s'élèvera, j'ai fait une découverte. Les tubes du paravolt que les bicuras ont dû jeter dans l'abîme la nuit où ils ont assassiné Tuk, il y a exactement 223 jours de cela. Ces tubes pourraient me permettre de traverser la forêt des flammes à n'importe quel moment si le cruciforme le voulait bien. Mais il ne veut pas. Si seulement il n'avait pas détruit ma trousse médicale avec les analgésiques. Mais à force de contempler ces tubes, il m'est venu une idée. Mes expériences sommaires avec le scanner médical ont continué. Il y a une quinzaine de jours, lorsque Theta s'est cassé la jambe en trois endroits, j'ai observé attentivement la réaction du cruciforme. Le parasite a fait de son mieux pour contrer la douleur. Theta était sans connaissance la plupart du temps, et son corps produisait d'incroyables quantités d'endorphines. Mais les fractures étaient trop douloureuses, et les bicuras, le quatrième jour, lui ont tranché la gorge et l'ont descendu dans la basilique. Le cruciforme a eu moins de mal à le ressusciter qu'à supporter la douleur sur une longue période de temps. Mais juste avant le meurtre, mon scanner avait eu le temps d'enregistrer un retrait appréciable des nématodes de certaines parties de son système nerveux central. J'ignore s'il serait possible de s'infliger ou de supporter des niveaux de douleur non mortels mais susceptibles de provoquer le retrait total du cruciforme. Tout ce que je sais, cependant, c'est que les bicuras ne le permettraient pas. Toute la journée, assis sur le rebord de la saillie en contrebas de la chapelle en construction, j'ai beaucoup réfléchi à toutes ces possibilités. 438e jour. La chapelle est achevée. C'est l'œuvre de ma vie. Ce soir, pendant que les bicuras descendaient dans la faille pour procéder à leur parodie quotidienne de culte, j'ai célébré la messe sur le nouvel autel. J'avais préparé le pain avec de la farine de chalme, et je suppose qu'il avait le même goût douceâtre que les feuilles dont se nourrissent les bicuras. Mais pour moi, il avait la saveur de ma première hostie, le jour de ma communion à Villefranche-sur-Saône. Demain matin, je ferai ce qui est prévu. Je pense que tout est prêt. Mon journal et les enregistrements du scanner seront dans une pochette en fibre d'abeste. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Le vin de messe n'était rien d'autre que de l'eau, mais la lumière du crépuscule lui donnait la couleur vermeille du sang, et son goût était celui du vin consacré. L'astuce consistera à pénétrer le plus profondément possible à l'intérieur de la forêt des flammes. Il me faudra tabler sur une activité suffisante des Tesla, même en période calme. Adieu, Édouard. Je doute que tu sois toujours en vie, et même si tu l'es, je ne vois guère comment nous pourrions nous retrouver un jour, séparés que nous sommes, non seulement par des années de distance, mais par un gouffre plus vaste, en forme de croix. Mon espoir de te revoir ne se situe pas dans cette vie, mais dans l'autre. Étrange de m'entendre de nouveau parler ainsi, n'est-ce pas? Il faut que je te dise, Édouard, qu'après toutes ces décennies d'incertitude, et malgré la grande peur qui m'étreint quant à ce qui m'attend, mon cœur et mon âme sont en paix. Mon Dieu, je suis contrit de t'avoir offensé. J'aborde tous mes péchés parce qu'ils me barrent l'accès au ciel et me font endurer les souffrances de l'enfer, mais par-dessus tout, parce que je t'ai déplu. Mon Dieu, toi qui n'es que bonté et mérites tout mon amour, accepte ma promesse de m'amender avec la grâce infinie de ton aide, de confesser tous mes péchés et de faire pénitence. Amen. Minuit. Les rayons du soleil couchant pénètrent par la fenêtre ouverte de la chapelle et baignent l'autel, le calice grossièrement taillé, et moi d'une lumière ambrée. Le vent de la faille mugit les derniers soupirs de ce genre qu'avec un peu de chance et l'aide de Dieu, j'entendrai jamais. Ce sont ses derniers mots, déclara Lennart Hoyt après avoir achevé sa lecture. Les six visages des pèlerins assis autour de la table se levèrent vers lui comme émergeant d'un rêve commun. Penchant la tête en arrière, le consul vit qu'Hyperion était maintenant beaucoup plus proche et occupait un bon tiers du ciel, éclipsant les étoiles de son éclat froid. « Je suis arrivé 10 semaines après avoir vu le perdurer pour la dernière fois », continua Hoyt d'une voix rauque. « Plus de 8 années s'étaient écoulées sur Hyperion, et la dernière inscription du journal datait de 7 ans. » Le prêtre souffrait visiblement. Son visage, où perlait la transpiration, avait maintenant une pâleur morbide. Il m'a fallu un peu moins d'un mois pour remonter la rivière, à partir de Port-Romance, jusqu'à la plantation de Père Essebo, reprit-il en se forçant à maîtriser sa voix. J'espérais que les planteurs de fibroplastes ne me refuseraient pas la vérité, même s'ils ne veulent généralement pas avoir affaire aux fonctionnaires du consulat ou du conseil intérieur. Je ne me trompais pas sur ce point. Le contremaître de Père Essebo, un nommé Orlandi, se souvenait très bien du Père Duré, de même que sa nouvelle épouse, la Semfa dont il est fait mention dans le carnet. Quant au directeur de la plantation, il a essayé d'organiser plusieurs expéditions de recherche sur le plateau, mais ses tentatives ont échoué en raison d'une recrudescence de l'activité des Tesla au cours des dernières saisons. Au bout de plusieurs années, il a perdu tout espoir de retrouver son employé Tuc ou le père Duré vivant. Cependant, il a engagé à mon arrivée 2 pilotes de brousse pour explorer la faille avec des glisseurs de la plantation. Nous avons survolé la région aussi longtemps que nous l'avons pu, en comptant sur nos détecteurs d'obstacles et sur la chance, pour nous conduire en territoire Bicura. Mais même en évitant de cette manière une grande partie de la forêt des flammes, nous avons perdu 4 hommes et un glisseur que nous ont pris les Tesla. Le père Hoyt s'interrompit en vacillant légèrement, agrippant le bord de la table pour s'empêcher de trembler. Il s'éclaircit la voix et poursuivit. « Je n'ai plus grand-chose à ajouter. Nous avons fini par repérer le village. Les Bicura, tous les 70, se sont montrés aussi bornés et aussi peu communicatifs que le suggère son journal. J'ai tout de même pu leur faire confirmer que le père Duré avait trouvé la mort en essayant de s'enfoncer dans la forêt des flammes. La pochette en abeste avait résisté au feu et nous y avons trouvé son carnet et les enregistrements médicaux. » Hoyt fit du regard le tour de l'assistance, puis continua en baissant les yeux. « Nous avons réussi à nous faire indiquer l'endroit où le père Duré était mort. Il ne l'avait pas enterré. Ses restes étaient plus qu'à moitié carbonisés et décomposés, mais suffisamment complets pour nous montrer que l'intensité des décharges des Tesla avait été suffisante pour détruire le cruciforme en même temps que son corps. Le père Duré est mort de la vraie mort. Nous avons ramené ses restes à la plantation de Père Essebo, où ils ont été ensevelis après la célébration d'un service funèbre complet. Il prit une profonde inspiration. Malgré mes protestations vigoureuses, H. Orlandi a ordonné la destruction du village et d'une partie de la paroi de la faille à l'aide de charges creuses nucléaires qu'il avait apportées de la plantation. Je ne pense pas qu'un seul Bicura ait pu survivre à cela, et il est probable que l'entrée du labyrinthe et celle de la basilique ont été obstruées par l'éboulement. Souffrant de plusieurs blessures ou affections contractées au cours de l'expédition, j'ai dû séjourner plusieurs fois à la plantation avant de pouvoir retourner sur le continent septentrional, d'où j'ai gagné Passem. Personne n'est au courant de l'existence de ce journal, à l'exception de H. Orlandi et de Monseigneur Édouard, ainsi naturellement que tous ses supérieurs auxquels il aura jugé bon de révéler la chose. Mais, à ma connaissance, l'Église n'a encore publié aucun communiqué relatif au journal du Père Duré. Le père Hoyt, qui était debout, se rassit alors. La sueur dégoulinait sur son menton, et son visage, à la lumière réfléchie d'Hyperion, était d'une pâleur bleuâtre. « Et c'est tout ?» demanda Martin Silenus.
« Oui, »
réussit à murmurer le père Hoyt. « Madame, messieurs, » fit Etmastine, « il commence à se faire tard. Je vous suggère donc d'aller rassembler vos bagages et de gagner dans une demi-heure au plus le vaisseau de notre ami le consul, que vous trouverez dans la sphère numéro 11. Je vous rejoindrai plus tard à la surface avec l'un des vaisseaux de descente de l'arbre. » Presque tout le groupe fut prêt en moins de 15 minutes. Les Templiers avaient aménagé une passerelle de service reliant l'un des quais intérieurs de la sphère au balcon supérieur du vaisseau. Le consul passa le premier dans le grand salon, tandis que les clones d'équipage apportaient les bagages puis se retiraient. « Ce vieil instrument est fascinant », dit le colonel Cassade en passant la main sur le couvercle du Steinway. « C'est un clavecin ?»«
Un piano », répondit le consul, « de l'époque pré-égérienne. Est-ce que tout le monde est là ?»«
Il ne manque que Hoyt », fit Brown Lamia en s'asseyant sur un coussin de la fosse de projection. Etmastine entra à ce moment-là.
« Le vaisseau de guerre de l'hégémonie vous accorde l'autorisation de vous poser sur l'astroport de Kitz, » dit-il. « Je vais envoyer un membre de l'équipage voir si H. Hoyt a besoin d'aide. »«
Inutile, » fit le consul en modulant sa voix. « J'aimerais y aller moi-même. Pouvez-vous m'indiquer le chemin ?»
Le commandant du vaisseau-arbre regarda longuement le consul, puis glissa la main dans les plis de sa robe.
« Bon voyage, » dit-il en lui tendant une plaquette. « Nous nous retrouverons à la surface avant notre départ à minuit aux portes du temple Grichtek de Kitz. »
Le consul s'inclina.
« J'ai eu plaisir à voyager sous la protection des hautes branches de l'arbre, Etmastine, »
déclara-t-il cérémonieusement avant de se tourner vers les autres pour ajouter « Installez-vous aussi confortablement que possible dans le salon ou dans la bibliothèque située juste au-dessous. Le vaisseau pourvoira à vos besoins et répondra à toutes vos questions. Nous partirons dès que je serai de retour avec le père Hoyt. » La nacelle à environnement contrôlé du prêtre était sur une branche secondaire, à peu près à mi-hauteur du vaisseau-arbre. Comme s'y attendait le consul, la plaque d'orientation persoc que lui avait donnée Etmastine pouvait servir de passe pour ouvrir la serrure palmaire. Après avoir passé plusieurs minutes à actionner le carillon et à tambouriner vainement sur le portail, il se servit du passe pour pénétrer dans la nacelle. Le père Hoyt était à genoux au centre de la moquette pelouse, et il se tordait de douleur. Des vêtements et des objets divers ainsi que le contenu d'une trousse médicale standard étaient éparpillés autour de lui. Il avait arraché sa vareuse et son faux col et avait transpiré à travers sa chemise, dont les plis mouillés collaient à sa peau, déchirés aux endroits où ses doigts fébriles avaient tiré sur le tissu délicat. La lumière d'Hyperion filtrait à travers la paroi de la nacelle, donnant au tableau un aspect étrange, comme s'ils étaient sous la mer ou bien, se disait le consul, à l'intérieur d'une cathédrale. Les traits de Lennart Hoyt étaient déformés par une souffrance atroce, tandis que ses mains labouraient sa poitrine. Les muscles de ses avant-bras saillaient comme des serpents vivants sous sa peau blafarde.
« La seringue n'a pas fonctionné »
haleta-t-il.
« S'il vous plaît !»
Le consul hocha la tête, commanda à la porte de se refermer, puis s'agenouilla aux côtés du prêtre. Il retira la seringue automatique défectueuse de la main crispée du prêtre et éjecta la cartouche. Ultramorphine. Il hocha de nouveau la tête et prit une seringue neuve dans la trousse qu'il avait apportée de son vaisseau. Il lui fallut moins de 5 secondes pour charger la cartouche.
« Vite !»
supplia Hoyt. Son corps était agité de spasmes. Le consul voyait presque les ondes de douleur qui le traversaient.
« Voilà, » fit-il d'une voix sourde. « Mais je veux le reste de l'histoire d'abord. » Hoyt leva vers lui des yeux hagards tout en essayant de tendre la main vers la seringue. Transpirant à son tour, le consul éloigna lentement la seringue hors de sa portée.
« Vous l'aurez dans une seconde, dès que j'aurai entendu la suite de votre histoire. C'est très important pour moi. »«
Seigneur !»
sanglota Hoyt. « Par pitié !»«
Dites-moi la vérité d'abord !» haleta le consul.
Le père Hoyt retomba sur ses avant-bras, respirant par saccades.
« Putain de salaud !»
s'écria-t-il. Il prit plusieurs inspirations profondes, retint l'air dans ses poumons jusqu'à ce qu'il cesse de trembler, puis tenta de se redresser. Lorsqu'il regarda de nouveau le consul, celui-ci crut lire une sorte de soulagement dans ses yeux égarés.
« Ensuite, vous me ferez la piqûre ?»
demanda-t-il.
« C'est promis. »«
D'accord, »
fit Hoyt dans un souffle amer.
« Voilà la vérité. La plantation de Père Essebo. Comme je l'ai raconté, nous y sommes arrivés début octobre. Lysius, 8 ans après la disparition de Duré. Seigneur, j'ai mal! L'alcool ne me fait plus rien et les endos ne marchent plus du tout. Il n'y a que l'ultramorphine pure.
Je sais, murmura le consul. Tout est prêt. Dès que vous aurez achevé l'histoire.
Le prêtre baissa la tête. La sueur dégoulinait sur ses joues et son nez et tombait dans l'herbe courte de la moquette. Le consul vit ses muscles se tendre comme s'il se préparait à attaquer. Puis, un nouveau spasme de douleur secoua son corps décharné et ses épaules s'affaissèrent.
Le glisseur n'a pas été détruit par les Tesla. Avec Sempha et 2 autres hommes, je suis descendu explorer la faille. Pendant que Orlandi remontait le fleuve, son glisseur a dû attendre pour passer que les Tesla se calment. Les Bicuras sont venus pendant la nuit. Ils ont tué Sempha, le pilote, l'autre homme. « Ah, oubliez son nom. Ils m'ont laissé vivant. »
Hoyt voulut toucher son crucifix sur sa poitrine, mais s'aperçut qu'il l'avait déjà arraché. Il eut un rire bref qui faillit se terminer en sanglots.
« Ils m'ont parlé de la croix, du cruciforme et du fils des flammes. Le lendemain, ils m'ont emmené voir celui qu'ils appelaient ainsi. »
Hoyt se redressa péniblement et porta soudain les mains à son visage qu'il laboura de ses ongles. Ses yeux étaient agrandis. Il avait visiblement oublié l'ultramorphine malgré la douleur.
« Environ 3 kilomètres à l'intérieur de la forêt des flammes. Un énorme Tesla, 80-100 mètres de haut peut-être. Relativement calme à ce moment-là. Mais l'air chargé d'électricité tout autour. Et des cendres partout. Les Bicuras avaient peur de s'approcher. Ils ont prié à genoux, leur maudit crâne chauve baissé. Mais je me suis avancé tout près. Il le fallait. Mon Dieu, c'était lui, Duré. Ce qu'il en restait tout au moins. Il avait confectionné une échelle. Pour grimper à 3 ou 4 mètres du sol. Il avait fait une sorte de plateforme en abeste pour ses pieds. Et avec les tubes arrachés au paravolte et brisés comme des piquets pointus, en se servant sans doute d'une pierre pour les enfoncer, il s'était cloué à l'arbre et à la plateforme. Son bras gauche... Il avait enfoncé le piquet entre le cubitus et le radius, en évitant les veines, exactement comme ces foutus romains, pour que ça tienne tant que le squelette demeurerait intact. L'autre main, la paume en bas, il avait planté le piquet d'abord, aiguisé au debout, puis empalé sa main droite, recourbé le piquet, je ne sais comment, comme un crochet. L'échelle était tombée depuis longtemps, mais c'était de la beste. Ça ne brûle pas. Je m'en suis servi pour grimper jusqu'à lui. Tout avait brûlé depuis des années. Vêtements, peau, chair. Ah. Mais il avait toujours la pochette en abeste autour du cou. Les piquets de métal continuaient de conduire le courant, même quand... Ah, c'était quelque chose que je sentais, que je pouvais voir sous mes yeux, parcourant ce qu'il restait du corps. Ce corps qui avait encore l'aspect de Paul Duré. Très important. Je l'ai bien expliqué à Monseigneur. Plus d'épiderme, la chair à vif ou carbonisée, les nerfs et le reste visible, comme un réseau de capillaires gris ou jaunes. Oh Seigneur, quelle puanteur! Mais cela avait encore l'aspect de Paul Duré. J'ai tout compris à ce moment-là, même avant de lire son journal. J'ai compris qu'il était resté cloué là, cette année entière. Oh mon Dieu! Mourant, ressuscitant, forcé à vivre par le cruciforme. Traversé à chaque seconde de ces 7 années par des décharges électriques. Livré aux flammes, à la douleur, à la faim. Tandis que ce maudit cruciforme devait puiser pour le nourrir, ou ce qu'il restait de lui. La substance de l'arbre, de l'air peut-être, reconstituant tout ce qui pouvait l'être, le forçant à sentir la douleur encore et encore et encore. Mais il a fini par gagner. La douleur était son allié. Tout Jésus, au lieu de quelques heures clouées à l'arbre, un coup de lance et puis le repos. Il est resté ainsi 7 ans. Mais il a gagné. Lorsque j'ai retiré la pochette, le cruciforme est tombé. Il s'est détaché, simplement, avec ses longues racines couleur de sang. Puis la chose dont j'étais sûr qu'il s'agissait d'un cadavre. L'homme a levé la tête. Ses yeux blancs étaient sans paupières. Il n'avait plus de lèvres. Mais il m'a regardé et il a souri. Puis il est mort, réellement mort, dans mes bras. Pour la 10 000e fois peut-être, mais c'était la bonne. Il m'a souri et il est mort.
Hoyt se tut, communiant en silence avec sa propre souffrance, puis continua, serrant les dents entre chaque bribe de phrase.
Les bicurins, ramenés à la faille. Orlandi est arrivé. Le lendemain, il m'a libéré. Avec Semfa, ce n'est pas... Il a détruit le village au laser. Brûlé les bicurins sur place. Ils nous regardaient avec leurs yeux de moutons hébétés. Je n'ai pas... Essayez de m'interposer. Je riais aux éclats. Pardonne-moi, oh mon Dieu. Orlandi a tout nettoyé avec des charges creuses nucléaires habituellement utilisées pour défricher la jungle autour des matrices de fibroplastes.
Hoyt regarda le consul dans les yeux en esquissant un geste maladroit de la main droite.
Les analgésiques faisaient de l'effet au début, mais chaque année qui passait, c'était pire. Même en état de fugue, cette douleur, je n'aurais pu rester ainsi de toute manière. Comment a-t-il pu? Pendant 7 ans, mon Dieu!
Le père Hoyt agrippa la moquette d'une main. Le consul le retint au moment où il allait s'écrouler et lui fit l'injection, rapidement, au-dessous de l'aisselle, vidant toute l'ampoule d'ultramorphine. Puis il le laissa doucement retomber, inanimé, dans l'herbe verte. Sa vision était trouble. Il écarta rapidement la chemise trempée du prêtre. C'était bien là, comme il s'y attendait. Incrusté dans la peau blême et lisse de son torse, un bourrelet vermeil ressortait comme une espèce de gros ver en forme de croix. Le consul retint sa respiration et retourna le prêtre sur le ventre. Le second cruciforme était là, lui aussi, un peu plus petit, serti entre les omoplates. Il sembla vibrer d'une légère pulsation lorsque le consul passa le doigt sur la crête de chair boursouflée. Sans perdre de temps, il rassembla les affaires du prêtre et remit un peu d'ordre dans la pièce. Puis il habilla le père Hoyt avec autant de douceur et de ménagement que s'il s'agissait du corps d'un défunt très proche. Son père Soc bourdonna à ce moment-là.
« Il est l'heure de partir », fit la voix du colonel Cassad.
« Nous arrivons », répondit le consul.
Il programma le père Soc pour qu'il fasse enlever les bagages par les clones d'équipage, mais porta le prêtre lui-même. Le malheureux ne pesait pas plus lourd qu'une plume. Le diaphragme de la nacelle s'ouvrit et il sortit, quittant la pénombre des frondaisons pour s'avancer vers l'éclat bleu-vert de la planète qui occupait maintenant la presque totalité du ciel. Tout en cherchant ce qu'il allait dire aux autres, il s'arrêta quelques secondes pour regarder le visage de l'homme assoupi. Puis il leva les yeux vers Hyperion et continua son chemin. Même si la gravité avait été celle de la Terre, il savait que le prêtre n'aurait pas pesé beaucoup plus lourd dans ses bras. Il avait eu un fils, naguère, qui était mort. Et en portant Hoyt, il connut de nouveau la sensation de conduire un fils endormi dans son lit.